Radio Kapi, Grand
ancien directeur général de la Société nationale des auteurs, compositeurs et éditeurs Sonica, Désiré Byabungana Nunga est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Désiré Byabungana, soyez le bienvenu.
Merci.
Comment allez-vous?
Oui, ça va très bien, merci.
Vous avez une expérience de plus de 35 ans dans le secteur financier au pays où vous avez occupé des grands postes de responsabilité au ministère des Finances, de l'Intérieur, de la Culture et des Arts, dans les entreprises telles que la SNCC, la BZCE, la RVA. Nous parlerons de tout cela au cours de cet entretien. Mais vous voyez le jour à Ndoba, le 25 mai 1937, c'est-à-dire vous avez 71 ans aujourd'hui. C'est dans quelle partie du pays?
C'est dans le Bas-Congo, dans le territoire de l'Ouazi.
Vous êtes marié et père de 4 enfants. Quel genre d'enfant étiez-vous?
Comme tous les enfants, j'étais quand même du moins particulièrement sage. Pas terrible.
Ah bon, vous avez gardé ce calme depuis l'enfance?
C'est depuis l'enfance, oui.
Donnez-nous quelques noms d'amis d'enfance que vous avez encore à l'esprit.
Bon, par exemple, j'ai un ami d'enfance de l'école, M. Ngoma Pascal, qui est à l'antenne A, M. Kabou François, et M. Nzuzi Mathieu, qui est un collègue de service, qui est toujours ici à Kinshasa.
Voilà, la liste n'est pas exhaustive.
Oui.
Mais parlez-nous quand même de vos études primaires que vous commencez en 1951.
J'ai commencé l'école primaire ici à Kitambo, à l'école de Saint-Georges. Quand j'ai terminé l'école primaire, je suis allé faire le secondaire à la colonie scolaire de Boma. Et puis je suis venu terminer au collège Edikia, ici à Kinshasa.
Humanité commerciale.
Humanité commerciale, oui.
Parlez-nous un peu de la vie des années 50 et 60 ici à Kinshasa.
C'était une bonne vie. Bon, du fait d'abord que c'était une petite population. Donc on avait à peu près, à la veille de l'indépendance, c'était dans les 200 000, 250 000, 400 000. Alors vous voyez qu'aujourd'hui c'est plus de 8 millions d'habitants. Ça fait tout 10. Donc la différence, vous voyez même le moyen de transport, tout ça devient très compliqué parce qu'il y a du temps. Il y avait le transport en commun, mais comme il n'y avait pas une grande population, tout le monde trouvait son compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la bousculade.
Alors,
c'est ça qui fait la différence.
Le 30 juin 1960, vous aviez 27 ans. Oui. Comment vous avez vécu ça, ces jours-là?
C'était un grand jour, bien que c'était un jour de manifestation, c'était une grande fête. Évidemment, les gens ne comprenaient pas très bien ce que c'était l'indépendance. Bon, on a cru que c'était la liberté absolue. Bon, il fallait se remettre au travail. Après, il y a eu un peu des achantements.
Et là, c'est l'aspect politique. Allons-y un peu plus culturel, la musique de l'époque et les danses.
Bon, la musique de l'époque, c'était une musique bien choisie. Vous voyez, même les musiciens, quand ils jouaient, ils étaient bien habillés. La musique, je crois, la musique peut aussi s'assembler aux époques. Vous voyez, quand l'époque est calme et doux, les gens aussi, même les musiciens, jouaient calmement leur musique. Ils avaient de bonnes compositions. Ils imitaient plus ou moins les chanteurs français, les ténors aussi au consort, ce qui fait que la musique était différente du jour d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est un peu plus chaud.
Et aujourd'hui, c'est plus chaud.
Et vous, à l'époque, quelle était la danse que vous préfériez?
Bon, à l'époque, il y avait la rumba et la cha-cha-cha. C'était les deux danses que les gens préféraient.
L'école primaire, l'école Saint-Georges, le collège Elikia, et vos études universitaires?
Les études universitaires, je les ai passées en Belgique. Comme c'était après l'indépendance, bon, il y avait la possibilité d'avoir facilement le bourse, et je suis allé le faire à Louvain.
Et à l'époque, comment un jeune Congolais noir était accueilli en Belgique?
D'abord, ça faisait l'objet de curiosité parce qu'on n'était pas nombreux. Donc, même à l'université, les gens s'étonnaient que vous puissiez suivre le cours facilement, puisque, bon, d'après les informations qu'ils avaient, que les Noirs étaient tellement en retard que nous n'avions pas un bon enseignement primaire et secondaire, du moins à cette époque, mais ça avait surpris tout le monde quand le premier groupe est arrivé, puisque nous, c'était le premier groupe en masse. Avant, il y a eu quelques gens qui sont partis, comme le camp de Thomas et consorts. Mais après, à l'indépendance, il y a eu quand même une grande partie qui est partie. Comme on travaille très bien, il y avait quand même la conscience aussi. Ce qui fait que tout le monde réussissait quand il le fallait, et les Blancs s'étonnaient du moins.
Vous faites des études économiques, une licence en sciences économiques à Louvain.
Oui.
En Belgique.
Oui.
En 1969, vous obtenez le Certificate of World Affairs of New York City aux USA, et en 1971, le Certificat des Finances Publiques de l'Institut du Fonds Monétaire International à Washington, D.C. Certains spécialistes pensent que la RDC devrait cesser de miser sur le FMI et la Banque mondiale. Quel est votre avis à ce sujet?
Bon, en tant qu'institution, c'est pas mal. C'est-à-dire quand vous êtes dans l'institution, c'est-à-dire qu'il y a un problème de programme. Parce qu'il y a eu, par exemple, le programme d'ajustement structurel qui a demandé qu'on puisse faire beaucoup d'efforts sur le plan financier, soit pour rembourser les dettes, tout ça. Mais sur le plan de travail, c'est quand même une institution qui a quand même sa place.
Mais beaucoup de Congolais pensent qu'ils ne se retrouvent pas dans le Fonds monétaire et la Banque mondiale qui ont contribué, selon certains spécialistes, à pratiquement appauvrir les populations.
Le problème, que c'est le politique. C'est-à-dire qu'on peut vous imposer une politique. Mais c'est à vous de pouvoir juger de bien fonder de la politique. Mais comme vous savez, qu'on ne rentre pas dans le système de gestion politique d'ensemble. C'est ça. C'est-à-dire que sur le plan technique, il peut faire du bon travail. Mais sur la gestion publique, ce qui vous mène à la politique, l'entendement n'est pas le même. C'est-à-dire que ce n'est pas le même objectif que nous poursuivons. Si vous voyez, par exemple, on rentre en politique. Tous les gens ont dit on rentre en politique pour aider le pays. Mais les autres rentrent en politique pour peut-être trouver le bien-être. Et à ce moment-là, ça devient un bien-être individuel et on oublie le bien-être collectif. Vous voyez, c'est le sens, par exemple, du bien public, du bien collectif. Il y en a, quand ils arrivent au pouvoir, ils s'en approprient. Et à ce moment-là, quand les institutions arrivent pour pouvoir peut-être aider, c'est tant bien que mal le pays, bon, il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Prenons le cas de la Jacamine. Bon, dans les années 70, quand j'étais en société finance, bon, nous travaillions sur le budget de l'État, tout ça. La Jacamine fournissait plus de 60% du budget de l'État et plus de 400 000 tonnes par an. Aujourd'hui, si vous faites la différence, où est-ce que nous en sommes? La Jacamine a disparu totalement pendant que c'était presque un État dans un État.
Donc, à votre avis, tout dépend de l'orientation politique qu'une nation donne à ce genre de coopération.
Voilà.
Chef d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir des 7h, heure de Kinshasa.
Désiré Biabungana Nunga, directeur général honoraire de la Société nationale des auteurs, compositeurs et éditeurs Sonica, en 1969, vous travaillez comme inspecteur et directeur du bureau d'études de l'Inspection générale des finances au ministère portant le même nom. Comment appréciez-vous la gestion des finances publiques actuelles?
L'eau a coulé sur les ponts. Vous voyez, à l'époque, c'était une époque où il y avait des recettes, la Gicamine fonctionnait à 100%. Ce qui fait qu'il y avait quand même une certaine facilité dans la gestion, même dans le respect d'exécution du budget de l'État. Ce qui fait que aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous avons même dans la fonction publique, vous voyez même le nombre de fonctionnaires jusqu'ici, au Lyon, on ne le connaît pas. À cette époque, on connaissait plus ou moins le personnel de l'État. Et même le paiement se faisait à temps, il n'y avait pas de retard de paiement. Tout marchait très bien, mais maintenant, avec le temps qui s'écoulait, avec tout ce qui s'est passé, avec la transition et tout ça, ça fait que nous avons la peine à suivre. Vous voyez, même les dépôts de budget au Parlement, ça pose des problèmes. Or, dans le temps, c'était vraiment, au mois d'octobre, le budget était déposé, la loi des finances sortait, et il n'y avait pas beaucoup de complications, il y avait quand même un suivi. À ce moment-là, on suivait un peu un modèle. C'est-à-dire qu'il y avait le modèle colonial qui était resté, qui était plus ou moins en vogue, et puis après, bon, vous voyez, maintenant, nous sommes arrivés dans ce qu'on appelle la chaîne des dépenses. Vous voyez, ce sont des nouveaux termes qu'on n'utilisait pas à l'époque. Et à l'époque, il y avait l'engagement du budget. Tout était, on dit, bon, engagé. Il y avait des gestionnaires de crédit et de budget qui faisaient le travail facilement. L'instruction des finances aussi était vraiment top.
Souvent, finances publiques riment à tort ou à raison avec corruption. Quel rôle un inspecteur des finances peut-il jouer dans la lutte contre la corruption?
Bon, ça dit que d'abord, le rôle de l'inspection des finances, c'est faire un contrôle efficace et efficient. Mais le problème est toujours que quand un inspecteur des finances, on voit même les entreprises publiques d'État, vous faites le contrôle, mais souvent les rapports ne sont pas exploités comme il se devait. Parce que si on n'exploite pas le rapport d'un auditeur, d'un inspecteur des finances comme il se doit, ça pose problème. Et souvent les rapports ne sont pas suivis, il y a une certaine frustration même. Je peux donner une anecdote que j'ai eu personnellement à vivre. J'étais convoqué une fois par le général de la République pour avoir été contrôlé la Cour suprême de justice. Ça fait que, arrivé là-bas, j'ai contrôlé celui que je devais contrôler. Dans le programme de défense, tout ça, bon, celui-là dit, bon, moi, je ne fais qu'exécuter les ordres qu'on me donne. Il se fait qu'à un certain moment, le rapport n'a pas pu
au supérieur.
Au supérieur, bon, je viens un jour convoqué au parquet, j'arrive, il me dit, mais c'est vous qui êtes le... Je dis, oui, c'est moi. Il dit, bon, vous reconnaissez-vous cette signature? Je dis, c'est ma signature. Et le rapport, je dis, je l'ai fait. Vous maintenez, je dis, ben, moi, j'ai fait le rapport, je l'ai déposé. J'ai fini, bon, après, bon, il me dit, bon, ça va, c'était quand même pour, vous étiez un peu fort. Mais j'ai dit, c'est ça le problème. Vous voyez qu'en ce moment-là, on a réagi. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Mais souvent, ceux qui contrôlent font leur travail. Mais dès qu'ils déposent le rapport, bon, ça peut poser des problèmes aux uns aux autres. J'ai eu des cas comme ça. Bon, on vient, on dit, mais les autres viennent, on dit, mais vous ne faites rien, mon cher. Prenez des rapports. Parfois, des rapports. Je dis, mais c'est bien, mais je ne sais pas pourquoi. On dit, bon, ça, il faut les poser. Peut-être que quelqu'un a oublié sur le toit.
En 1972, vous devenez directeur général de la Société nationale des auteurs, compositeurs et éditeurs, Sonica. Comment y arrivez-vous des finances à la culture?
Donc, je m'avais posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut arrêter la corruption pour un inspecteur des finances, par exemple. Il s'est fait que nous sommes allés contrôler la Sonica. Parce que les musiciens se plaignaient toujours que voilà, il y a des problèmes.
Ils ne bénéficiaient pas de leurs droits.
Tout ça. Ils ont requis l'inspection des finances, ils sont allés travailler. Nous avons travaillé comme il se devait, on a fait des rapports, bon, on a démontré qu'ils avaient des droits touchés et que quelque part, il y avait aussi des problèmes de gestion qui n'allaient pas. Maintenant, quand les rapports étaient déposés, je crois 3 mois après, peut-être on a dit bon, puisqu'il a fait des recommandations, qu'il aille
lui-même diriger,
qu'il aille appliquer ce qu'il a demandé de faire. Et effectivement, comme pour la suite, j'ai été nommé, bon, j'arrive, bon, heureusement que j'avais déjà fait du travail pendant 3 mois qu'on a travaillé là-bas. J'ai, par exemple, obtenu la subvention d'État, parce que la subvention n'était pas subventionnée. Parce que avec le produit de redevance sur le droit d'auteur, la partie administrative de la subvention ne peut pas vivre. Alors j'ai dû démontrer que, voilà, si vous voulez que la subvention reste viable, qu'ils puissent travailler calmement, d'abord pour éviter tout ce qui s'est passé, il faut que la syndicale soit subventionnée. À ce moment-là, on a un peu de fonds, les gens travaillent, le recouvrement des redevances se fait difficilement, péniblement, parce que d'abord, la matière, c'est une matière très compliquée.
Les musiciens même ne maîtrisent pas les droits d'auteur.
Oui, mais... ouais, justement, c'est ça, on devait commencer par informer ce que c'est le droit d'auteur. Qui peut bénéficier des droits d'auteur? Parce que vous voyez que, par exemple, un musicien, un bon chanteur, enfin, il n'est pas auteur, il ne fait que chanter. Enfin, ce moment-là, sur le plan du droit d'auteur, il ne peut rien bénéficier.
Ah bon?
Il n'est pas auteur, il n'est pas compositeur. Parce qu'on dit, c'est la société d'auteur, compositeur et éditeur. Vous pouvez être auteur, compositeur, vous pouvez être éditeur, c'est la base même des droits d'auteur. Vous protégez leurs œuvres. Ceux qui produisent, un auteur qui a composé sa chanson, si ça marche sur le marché, on doit le protéger. À ce moment-là, avec cette confusion, les gens ne voient que la vedette. Un grand musicien, c'est une vedette, bon, on croit qu'il a des droits d'auteur. Parfois, il est un drummer, bon. Il est trouvé dans lequel il peut être populaire. On l'appelle musicien. Mais sur le plan de droit d'auteur, il ne bénéficie de rien. Ça pose un problème de communication, d'information.
Nous allons continuer à parler de la Sonica, mais je vous invite à suivre la réaction de Léon Tsambouboulou. Il est sociologue de la musique et de la culture populaire urbaine et de masse, qui en 2004 a publié un article intitulé « Musique et violence à Kinshasa, réponse populaire à la faillite de l'État ». Il s'exprime aussi sur la Sonica. C'était lors de son passage dans cette émission.
La République démocratique du Congo n'a pas une politique culturelle vraiment bien ficelée. Les artistes se prennent eux-mêmes en charge, ça il faut le reconnaître. Ils font la musique sans pour cent bénéficier par exemple du droit d'auteur, parce que la Sonica qui est en liquidation, et ça perdure, hein, n'était pas en mesure de s'assumer, c'est-à-dire collecter les droits, les répartir aux artistes, non seulement de Kinshasa, mais du Congo tout entier. À ce niveau-là, les artistes recours à des mécanismes tout à fait personnels et parfois pas orthodoxes du tout pour se prendre en charge, notamment pour voyager, aller à l'étranger, faire des spectacles. Bon, on n'a pas de sponsor, on n'a peut-être pas un producteur professionnel qui sait s'assumer. On recourt au phénomène d'Ngoulou, tous ces éléments-là. N'est-ce pas que c'est une manière de répondre à la faillite de l'État et pas des studios sur place?
Désiré Diabungana, à quel moment la Sonica a-t-elle commencé sa descente aux enfers d'après vous?
Vous voyez, l'artiste, le grand musicien bénéficie d'un sauf conduit. Et parfois, j'ai plein d'anecdotes sur ce problème de musicien.
Racontez-nous une seule.
Bon, par exemple, un musicien, le président vous le voit, il le salue, il dit, mais comment ça va? Il dit, oh, mais président, vraiment, ça ne va pas, la sonne est qu'à me tuer. Bon, ce président, il avait seulement de mémoire, il n'a rien dit. Il a dit, bon, ça va, il continue. Quelques temps après, il a fait le ministre de la Culture, il dit, mais voilà, ça ne va pas, voilà. Quand je l'ai vu, je vous avais lui, il m'a dit que non, vraiment, ça ne va pas, on lui doit beaucoup d'argent à la Sonica. J'étais directeur général, interpellé par le ministre, j'ai fait un rapport. Et dans le rapport, c'est lui qui avait pris des dettes auprès de la Sonica. Il semblait qu'il ne produisait pas. Quand on l'a convoqué, on a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, ah, bon, excusez-moi, mais... c'est comme ça pour nous. Quand il y a toujours des changements dans l'entreprise, un ministre arrive, un groupe de gens vont le voir, ils disent, oh non, ça ne va pas, il faut changer, on change à un certain moment.
Personne ne maîtrise, l'institution et c'est détérioré.
Tu sais, quand je suis arrivé à la Sonica, j'ai commencé par publier une petite brochure, la pratique du droit de terre au Congo, aux Zaïre. C'est à cause de ça, c'était que je voulais que les gens sachent exactement de quoi ils retournent, c'est que si on attend par le droit d'auteur.
En 1972, vous servirez également comme administrateur coordonnateur du Théâtre National et du Ballet National du Zaïre. Qu'est-ce qui a provoqué la chute de ces deux instances culturelles nationales qui ont pourtant contribué à vendre une image positive de la RTC?
C'est comme on dit le sociologue, c'est toujours une question de politique. Vous voyez, quand j'étais devenu coordinateur, j'ai fait faire le ballet Lianza. J'avais fait engager un Italien, M. Franco, pour monter ce ballet. Comme lui, il avait plus de facilité pour avoir accès à certaines facilités, j'ai dû l'utiliser. Ça fait que, comme entre nous, il y a toujours des rivalités, tels ont les noms de directeurs, un groupe n'est pas d'accord, ils vont voir le ministre change de position, bon, surtout quand il y a changement de ministère. Et ça pose un problème. Parce que c'est question d'une politique culturelle, savoir ce que c'est la culture, qu'est-ce qu'il faut faire.
Et qu'est-ce qu'on veut?
Oui.
Pour revenir à votre passage à la Sonica, il faut rappeler que vous avez deux fils qui sont musiciens et qui ont créé le groupe Fatima CIA, le premier groupe de musique rap en RDC. Aujourd'hui, ils sont installés à Paris. Parlez-nous de cette vocation musicale familiale.
Donc, c'est le premier qui est vraiment musicien. Parce que lui, déjà, depuis le jeune âge, il était même au collège
Boboto,
tout ça. J'ai dit de faire partie de là parce que bon, il allait passer le concours de guitare au Palais du Peuple et gagner toujours des petits projets, des petites coupes. Alors, je lui ai dit, bon, nous devons choisir. Soit que vous faites arrêter les études de musique, soit vous arrêtez. Et il était obligé de quitter le collège de Bogota pour aller s'inscrire à l'INA. Et en ce moment-là, après, il m'a dit, parce que je lui avais dit que voilà, il y a la musique, il y a deux choses, soit vous résistez, soit vous échouez. Connaissez au moins le solfège, et que quand vous échouez de ce côté-là, vous pouvez aller enseigner le solfège dans une école, et vous aurez quand même un travail à faire. Tandis que si vous allez de ce côté, vous faites la musique pour la musique, sans l'avoir étudié, ça fait vous des problèmes. Et il m'a compris, il m'a dit, oui, effectivement, et je suis allé le mettre à l'INA, maintenant au moins, il sait ce que c'est, fait la musique. Alors le deuxième, l'a suivi, comme il assistait,
et il était dans son assistant.
Oui, il est venu son assistant.
Et il faut dire que vous-même aussi avez quand même fait de la musique.
Oui, moi c'était dans une fanfare au collège, je jouais de la flûte, la clarinette.
Je vous invite à suivre ce témoignage de quelqu'un que nous avons joué au téléphone pour vous.
Monsieur Verbouven à Bimont, pour les intimes et des flashs, c'est mon nom de mon blaze, mon nom de scène quand je chante, quoi. Et Monsieur Verbouven, là, c'est mon papa, c'est mon père. Je suis l'aîné après que mon frère Didi, je chante avec lui dans mon groupe, quoi, Didi. Bon, mon père, c'est mon tout, hein, je peux dire, parce que c'est lui qui m'a appris à jouer à la guitare à l'âge de 6 ans, et c'est lui qui m'a fait écouter tout. Le jazz, la musique classique, la soul, la musique française d'antan, donc c'est tout lui qui m'a appris la musique, quoi. Et avant, c'était un peu chaud, parce que moi, j'ai étudié au collège Mobutu, à la télé de la Gombe, j'étais à la Bombinière aussi, et avant, il était contre que je fasse la musique, malgré qu'il m'a appris comme ça, donc le week-end, quand il était à la maison, il m'apprenait à jouer à la guitare et à son insu, quoi. Il savait pas que j'étais dedans. Il avait compris que c'était que ma passion. Il m'a conseillé d'aller à l'INA, à l'école de musique au conservatoire.
Ce n'est toujours pas facile de poser la question que je vais vous adresser là tout de suite. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez votre père?
Bon, c'est dur cette question. Comment je peux dire? Je vois pas. Moi, j'aime tout, À part que des fois, quand il s'énervait, il parle pas beaucoup, mais quand il s'énervait, déjà, les gens qui parlent pas beaucoup, déjà, quand il s'énerve, c'est, vous voyez ce que je veux dire? Quand il s'énervait, nous tous, on fuit le salon, quoi. En tout cas, le salon, il est super, parce que, ouais.
Donc il faut rappeler aux auditeurs que nous vous appelons de Paris, vous êtes en direct de Paris. Pouvez-vous adresser un petit message à votre père et à votre mère?
Ouais, je veux juste dire que je les aime beaucoup. J'aime beaucoup mon père, j'aime beaucoup ma mère, quoi. Il nous manque, moi et mon frère et ma soeur qui est à Bruxelles, Jojo. Bientôt on va venir parce que comme notre album est sorti, on viendra et on va en profiter aussi pour la promo de l'album, on en profitera aussi pour être avec eux.
Réaction, Désiré Diabunga, vous êtes plein d'émotions, vous avez même les larmes aux yeux.
Ouais, il a dit ce qu'il pouvait passer.
Vous manquez les mots, hein. Il sent tellement d'émotions. Je vous invite à suivre la chanson Dégâts du groupe Fatima, c'est y a créé par vos fils.
Alors Tony est un rap sauvage. I'm going to go to the hospital.
Vous êtes ancien directeur général de la Sonica. En 1974, vous travaillez comme directeur financier de l'imprimerie d'État Ex-Concordia. En 1977, vous êtes conseiller financier et économique du gouverneur de la province de Kinshasa. Et en 1979, au ministère des Finances, inspecteur provincial des Finances à Kinshasa. Aujourd'hui, on parle de la crise financière mondiale. Quels conseils pouvez-vous donner au gouvernement congolais pour y faire face ?
Le conseil, c'est toujours essentiellement de la bonne gouvernance. Vous voyez, la crise, elle est mondiale, mais pour bien la gérer, il faut seulement commencer, pour nous du moins, avec les difficultés que nous connaissons, d'avoir une bonne gestion des finances publiques, de respecter la loi financière. Je crois que si on peut faire cette bonne gouvernance, de lutter contre la corruption, bien sûr, on pourra peut-être s'en sortir.
En 1980, vous prestez à la SNCC comme sous-chef de division à la direction du budget. Que faut-il, à votre avis, pour que la SNCC soit aujourd'hui en possession de tous ses moyens et produire les résultats que la nation attendait?
Il y a le problème en amont et en aval. En amont, la SNCC, quand il est fonctionnante, d'abord quand on a créé ce chemin de fer, c'était pour faciliter l'exportation des minéraux. Depuis que la GKM est tombée en faillite, la NCC ne faisait que transporter les matières premières, puisque tout ça, comme la GKM n'existe plus comme telle, bon, avec le désordre qui s'est créé là-bas, ce qui fait que la NCC a des problèmes, ne fût-ce que pour réhabiliter le chemin de fer. Maintenant, c'est difficile, vous voyez, les trains circulent peut-être une fois par mois, quand vous arrivez au niveau de Gananga, il n'y a presque pas même de train, les ailes vont pousser sous les rails, ça pose beaucoup de problèmes. Il faudrait maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut avoir une bonne gouvernance. Quand on n'a pas une bonne gouvernance, on ne peut pas arriver à faire quelque chose de bien, parce que c'est ça le problème. Le problème de notre pays, c'est la gouvernance, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et souvent, nous constatons que les nominations arrivent de gauche à droite, bon, les gens se précipitent pour avoir cet poste. Si on dit qu'il faut partager le pouvoir, et bon, le fait d'être politicien n'est pas dit que vous êtes expert en tout. Nous avons constaté que c'est ça le problème ici. Alors, ce qui fait que tout ce monde arrive dans les entreprises, dans les conseils d'administration, on vous amène les gens. Il y a double gestion, il y a double chef. Alors, ça ne va pas. C'est ça le problème. Hors qu'ailleurs, quand vous voyez même dans les conseils d'administration, ceux qui sont nommés là-bas, ce sont de haute personnalité, des gens qui ont occupé des hautes fonctions, qui ont fait une carrière,
qui ont une expertise.
À ce moment-là, quand il est dans un conseil d'administration, il sait ce qu'il doit faire. Tandis que bon, quand on dit seulement voici le partage, chacun veut avoir sa part, nommez-moi là-bas, je serai là, bon, on amène, les gens arrivent, bon, vous voyez, il n'y a rien qui marche de ce côté-là. Moi, j'en ai connu des gens, quand ils citaient le bilan, ils ne pouvaient rien dire, parce que bon,
ils ne s'y connaissaient pas.
Ils ne s'y connaissaient pas, ils ne connaissaient pas même l'entreprise, ils ne connaissaient rien de tout ça. Comment voulez-vous que ça marche à ce moment-là?
En 1983, vous travaillez à la Banque congolaise du commerce extérieur au département des crédits comme analyste financier. Entre 1992 et 2006, vous êtes auditeur financier principal à la Régie des voies aériennes. Comment voyez-vous l'avenir du secteur financier congolais pour clôturer cette émission?
Nous avons les responsabilités. Nous avons les hommes qu'il faut. le pays a des moyens. Je crois qu'il n'y a qu'un seul mot, il faut seulement la bonne gouvernance. Quand on a la bonne gouvernance, on peut tout faire. Mais c'est ça le problème. Le problème de conscience, de moralité, de savoir que le bien collectif passe avant le bien-être personnel. Tant qu'on n'a pas cette moralité, cette façon de voir les choses, ça serait difficile. Mais si on a vraiment cette volonté de changement, de vouloir travailler uniquement vraiment pour la nation, il y a un moyen que nous nous en sortons facilement.
Désiré Diabungana, merci d'être passé à grand témoin.
Je vous remercie.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Désiré Diabungana Nunga, ancien directeur général de la Société nationale des auteurs, compositeurs et éditeurs Sonica, à la réalisation et à la technique Héritier Figakala, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Kibumba dans la province du Nord Kivu et partout dans le monde.